Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Davantage encore que leurs aînés des années 70, les féministes actuelles semblent hantées par la figure de la sorcière. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée. Je tire cette phrase du livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », sorti l'hiver dernier, et dont le succès, plus de 120 000 exemplaires vendus aujourd'hui, révèle et accompagne le mouvement qu'elle semble prédire. Depuis que la sorcière américaine Star Hawke s'est fait connaître en France en venant soutenir la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et depuis MeToo, les sorcières sont de retour. Tandis que sur Internet se multiplient les sites de sorcellerie New Age, végétariens ou jeteurs de mauvais sorts contre Donald Trump, la pièce Le Monde renversé, montée l'an passé par quatre jeunes actrices réunies au sein du collectif Marthe, continue sa tournée cet hiver dans toute la France en présentant des sorcières. Un groupe de witch blocs s'en prend à Emmanuel Macron, une féministe américaine Sylvia Federici publie Caliban et la sorcière, l'éditrice Isabelle Camourakis lance une collection entière baptisée Sorcière, la philosophe belge Isabelle Stangers publie La sorcellerie capitaliste, l'artiste Camille Dusselier sort le film Sorcière mes sœurs, pour ne rien dire des succès passés de la série True Blood ou de celui actuel des Maléfices 1 et 2 chez Disney. Mais à quel phénomène historique fait référence cette nouvelle mode contestataire et à quoi correspond-elle exactement aujourd'hui ? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Céline Duchesnay, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chroniqueuse à France Culture dans l'émission Mauvais Genre, animée par François Angelier. Vous êtes aussi auteur de documentaires radiophoniques. Mm-hmm. Et vous avez réalisé en particulier en 2018 quatre épisodes d'une série documentaire sur les sorcières. Et vous sortez en ce moment, en coédition avec France Culture et Michel Lafond, Les sorcières, une histoire de femme, dont on va parler, qui est un peu le point de départ de cette émission. Ariel Bond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée des questions de genre et vous êtes créatrice depuis un mois, c'est ça, de la newsletter
depuis un an de
la newsletter Spell It Out. Et Maxime Gelli Perbellini, vous êtes historien médiéviste à l'École des études en sciences sociales, auteur d'une thèse sur la construction de la figure de la sorcière en France à la fin du Moyen-Âge, entre le 14 et le 15e siècle. Alors, Céline Duchesnay, ce livre qui fait suite à cette série radiophonique de l'année dernière, vous avez un truc avec les sorcières, quoi.
C'est marqué sur mon visage, vous croyez? Si j'ai un truc avec les sorcières, je ne sais pas. En tout cas, je me suis toujours intéressée à des mots qui pouvaient avoir voyagé dans le temps et je trouvais intéressant de voir qu'aujourd'hui, il pouvait y avoir des femmes qui se revendiquaient sorcières, alors que pour moi, la sorcière était plus associée ou à Jules Michelet au 19e siècle ou alors au temps moderne avec la chasse aux sorcières. Donc ce serait peut-être ça ma toute première entrée. Et puis aussi parce que à Mauvais Genre, j'ai interviewé, je dirais depuis 2010-2011, un certain nombre de sorcières. Alors au fil des sorcières, comme ça je me suis dit, tiens, mais qui se cache, qui sont ces femmes ou ces hommes d'ailleurs qui peuvent se revendiquer sorcières aujourd'hui à l'époque, donc c'était en 2010-2011, mais c'est peut-être encore plus vrai en 2018 et 2019.
Oui, alors c'est une chose que j'ai appris en lisant le livre. Il y a des femmes qui aujourd'hui se revendiquent sorcières.
Bien sûr, oui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ça date pas d'aujourd'hui.
Que, non. Mais après, c'est peut-être plus assumé aujourd'hui, je dirais.
Ariel Bond, vous en connaissez ?
Tout à fait, oui.
Maxime Gelli-Perbellini, vous en connaissez aussi, des sorcières contemporaines ?
Des sorcières contemporaines, non, mais des sorcières des temps passés, beaucoup.
Oui. C'est ça. Enfin, il y a une grande différence. Les femmes qui se revendiquent, qui se disent sorcières aujourd'hui, il y a une dimension politique qui est flagrante, voire revendiquée et même portée haut. Et puis il y a l'histoire. Et le livre est très intéressant aussi du point de vue historique. Avant d'en venir, je voudrais qu'on parle de l'aspect historique avant d'en venir à l'aspect contemporain. Le livre se divise en plusieurs parties. Il y a d'abord l'histoire des persécutions, les procès en sorcellerie qui ne commencent pas au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on dit souvent. Même si le mot, Maxime Gelli-Perbellini, le mot sorcellerie, le mot sorcière apparaît à quelle époque en France ?
Le mot sorcière apparaît dans la langue française, en ancien français, dans le roman d'Énée au XIIe siècle.
Voilà.
Le mot sorcière.
C'est ça. Mais le phénomène des procès, ce qu'on appelle les procès en sorcellerie, commence vraiment avec l'époque moderne.
On a des procès en sorcellerie, des procès où se trouvent inquiétés des hommes et des femmes accusés de ce crime, la sorcellerie, dès le Moyen-Âge.
Ce
n'est pas un fait de l'époque moderne. Par contre, le concept de chasse aux sorcières, qui implique une certaine systématisation judiciaire dans la procédure qui va... enquêter, débusquer la sorcière ou les sorciers pour être plutôt qualifiés de modernes, de l'époque moderne.
Comment
donc
ça
c'est-à-dire de du 16e, 17e, 18e siècle.
Voilà. Alors, Céline Duchesnay, vous dites que vous datez les grandes vagues de chasse aux sorcières. D'abord, vous dites, ça commence, vous dites, entre 1420 et 1440, dans le duché de Savoie, et puis la grande vague, c'est le siècle 1560-1660, quoi.
Oui. Oui, alors moi je dis, mais je répète surtout,
hein,
parce
que je
suis auteur de documentaires avant toute chose, donc ce sont les propos que je rapporte, ce sont les propos des historiens que j'ai récoltés dans tout au long du documentaire. Mais c'est vrai qu'ils avaient beaucoup insisté sur le fait que pendant très longtemps on avait associé le Moyen Âge, enfin la sorcière, au Moyen Âge, et je crois que c'est un peu la faute de Michelet et de sa sorcière au 19e siècle, Maxime. Je pense que
oui, alors dans les esprits contemporains, comme pour les historiens du 19e siècle, et même pour certains historiens encore aujourd'hui, le Moyen-Âge constitue un réduit historique, une tranche de l'histoire dans laquelle il est souvent, par, je ne sais pas, ironie, humour, en tout cas par non-connaissance des sources, le lieu de l'expression de pratiques obscures ou... répressive, en tout cas qui serait d'un autre temps, pas celui en tout cas de la raison ou des Lumières.
Oui, c'est-à-dire que le paradoxe apparent, c'est que les grands procès en sorcellerie, la grande paranoïa par rapport à la sorcellerie, commence avec l'âge moderne, c'est-à-dire au moment où se développent la science et la technologie. Est-ce que il y a des explications à ça?
En tout cas, au XVIe et XVIIe siècle, c'est cette époque-là, hein, comme vous le disiez, entre 1560 et 1660, jusqu'en 1682, qui, dans le Royaume de France, est une date butoir, puisque c'est la date à laquelle le Parlement de Paris rend cet arrêt fondateur de la décriminalisation de la sorcellerie. Et c'est au XVIe et au XVIIe siècle que prend que la chasse aux sorcières, la chasse aux sorciers prend une ampleur considérable, notamment par la diffusion de traités médiévaux, en tout cas de la fin du Moyen-Âge, de la fin du XVe siècle, qui instillent dans certains milieux, notamment les milieux judiciaires, des élites, et dans certains contextes politiques, l'idée que c'est répandu une secte, celle des sorciers, celle des sorcières, et que cette secte met à mal le monde chrétien et qu'il faut donc du coup la débusquer, la condamner et la réprimer.
Alors vous dites, Maxime Jalli-Perbellini, vous dites les sorcières et les sorciers. Céline Duchesnay, vous insistez sur le fait que les victimes qu'on estime entre 60 et 100 000 pendant la période 1560-1660, je vous cite. Hein.
Les procès qu'on a gardés, parce que beaucoup de procès étaient brûlés en même temps que la personne sur le bûcher.
Ça fait partie des choses que j'ai apprises, que j'ignorais, c'est que avec les sorciers et les sorcières étaient brûlés non seulement tout ce qui se rapportait à eux ou à elles, mais aussi les pièces du procès et les cendres dispersées au vent. Donc il y a un effet de rituel purificateur, on a l'impression. Tout disparaît.
La société est purifiée, dans, en tout cas, de ces éléments néfastes. Mais si j'insistais, moi, sur... Vous voulez dire que j'insistais sur le fait qu'il y ait plus de femmes que...
80% de femmes, en particulier les vieilles femmes et rurales.
C'est à peu près les chiffres que les historiens m'ont donnés. Mais moi, je rappelle aussi mon cadre. Si j'ai appelé le livre Les sorcières, c'est parce que je trouvais plus intéressant de travailler sur cette figure féminine, sans oublier que, évidemment, des hommes ont été brûlés. Et ça, je tiens absolument à ne pas les oublier. Mais je trouvais que, comme la figure avait beaucoup plus évolué dans le temps, le terme de sorcière avait plus évolué que celui de sorcier. Je trouvais ça intéressant de travailler sur les femmes plutôt que sur les femmes et les hommes, parce que je pense qu'aujourd'hui on parle moins des sorciers que des sorcières au 21e siècle. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet angle, puis voilà, ayant travaillé beaucoup sur les sexualités à mauvais genre et les féminismes, ça me semblait plus pertinent.
Et ça correspond, Maxime Perbellini, ça correspond aux chiffres le...
Alors, la question du chiffre, en tout cas de la comptabilité hein, de, ouais. Des victimes de ouais. cette répression de la sorcellerie est complexe et compliquée à plusieurs égards, puisque, comme vous le soulignez, beaucoup de pièces de procédure ont disparu, non pas simplement parce qu'elles ont été brûlées avec les accusés, mais aussi du fait de la conservation plus ou moins hasardeuse de certains fonds judiciaires de l'ancien régime. Il était courant que les tribunaux se débarrassent de certains de certaines archives. Donc, le comptage intervient et il faut parfois éviter un certain gauchissement des sources et certains théâtres d'opérations de la répression de la sorcellerie se sont plus ou moins concentrés, en tout cas c'est le cas pour le Moyen-Âge, sur une répression d'ordre masculine ou d'ordre féminine.
Selon les endroits.
Selon les endroits. Il y a par exemple dans l'espace helvétique des endroits ou des lieux où la répression ne va se concentrer que sur des hommes et d'autres quasiment que sur des femmes. Dans le royaume de France que j'observe plus attentivement, la répression est plutôt, je dirais pas paritaire, mais équivalente entre hommes et femmes. Et ça reste encore la même chose durant l'Ancien Régime où dans certains organes de la justice et notamment au Parlement de Paris, comme l'a souligné Alfred Sauman dans ses études et dans les dépouillages qu'il a opérés dans les plaidoiries conservées pour le Parlement de Paris, une certaine égalité de traitement entre des hommes et des femmes accusés de sorcellerie. Donc je pense qu'il faut se méfier d'un certain discours, hein, de certaines zones qui ont été mieux étudiées, qui ont été beaucoup plus mis en valeur par l'historiographie, mais également par la justice elle-même à l'époque.
Il faut éviter de généraliser.
Voilà, en ce qui concerne la répression de la sorcellerie, il faut éviter de généraliser. Les comptages qui nous ont permis aujourd'hui d'établir ce chiffre, hein, 80% de femmes, 80% de femmes, 20% d'hommes, et surtout de permettre certains historiens de dire que c'était essentiellement des femmes âgées, c'est aussi une lecture certaine des sources, notamment en ce qui concerne l'âge. La procédure judiciaire, où les sources judiciaires parfois mentionnent rarement l'âge, mentionnent qu'elles sont veuves ou qu'elles ont eu deux enfants, et c'est des extrapolations parfois qui ont permis.
Après, l'âge est relatif de notre point de vue à nous.
Oui, et l'âge est très relatif.
40 ans, elle est déjà une très vieille dame.
Bien sûr, évidemment. Et l'âge est rarement une donnée très connue. C'est souvent un ordre de grandeur, même dans les sources. C'est 30 ans ou environ, 90 ans ou environ. C'est quelque chose de très fluctuant.
Mais alors, il y a quand même des éléments qui pointent les femmes ou le féminin comme cible. Vous parlez assez longuement, Céline Duchesnay, dans votre livre du marteau des sorcières que vous analysez, qui est écrit par deux dominicains, imprimé en 1486. Et entre autres choses, le livre défend l'idée que les femmes sont à l'origine de toutes les perversions, et que le terme, il y a même une étymologie de fémina qui viendrait de fait, foi, et de minus, moins. Ouais. C'est-à-dire que les femmes ayant moins de foi que les hommes sont déficientes dans leur force d'âme et de corps et songent donc davantage à ensorceler ceux qu'elles détestent. Il y a une sorte d'essentialisation de la femme et du corps de la femme, censé être nauséabond, parce que composé d'humeur froide et humide, qu'il rapproche de l'image antique de l'enfer.
Oui.
Il y a le pouvoir nocif des règles.
Ça, c'est ce cher Pline l'Ancien.
Mais qui
a fait beaucoup de bien à nous, les femmes.
Et qui a parti du... Oui.
Non, mais qui dit que donc, quand vous avez vos règles, en effet, vous pouvez ruiner, rendre stérile un champ qui était extrêmement fertile avant.
Maxime Perbellini, le marteau des sorcières, c'est un livre qui a été considéré comme. Un livre qui a posé la base des chasses aux sorcières ou pas?
Alors, il faut remettre les choses encore une fois dans leur contexte. Alors, beaucoup veulent voir moi j'appelle ça un traité. Un traité, beaucoup veulent voir ça comme un manuel, mais c'est un traité qui a une certaine destination. certains programmes qui a pour objectif de donner des cas pratiques pour des homologues à Jacques Sprenger et Henri Institoris, donc d'autres inquisiteurs, d'autres agents de la justice ecclésiastique ou laïque, afin de permettre à ces agents de la justice
de procéder,
à une inquisition, à une enquête qui permettrait de déceler les personnes qui pratiquent la sorcellerie.
Mais en faisant ça, ils posent quand même des catégories. C'est quand ils parlent, quand ils analysent la généalogie du mot féminin, enfin, ils posent une certaine direction.
Le discours est très typologique. Il pose vous parliez depuis l'ancien, mais évidemment, le marteau des sorcières se trouve à la confluence de différents discours, de différentes littératures, de temps démonologique, qui construit un rapport entre le péché, le démoniaque et le corps de ces pécheurs, mais également d'un discours misogyne qui focalise sur la femme un regard négatif et qui n'est pas à mettre... en tout cas, il ne faut pas définir ce marteau des sorcières comme une date de création de ces discours, mais plutôt comme un lieu de convergence.
France Culture, Signe des Temps, Mark Wetzmann.
Small like a sun, back over time, I'm crazy for you. Pleasure is mine, I love you, I love you, I love you. What's your name?
Voilà, on parlait de la diffusion, de la convergence d'un certain nombre de clichés à travers le marteau des sorcières, à travers ce livre, et surtout de la diffusion du livre qui va donner, finalement, c'est ça qui va créer, qui va participer à la création du discours, en fait.
Oui, tout à fait. C'est une réussite éditoriale complète. C'est aussi une réussite dans la pénétration parmi les élites. 75 aujourd'hui ouvrages médiévaux qui datent de la fin du 15e siècle, conservés encore aujourd'hui parmi les bibliothèques dans le monde. Des impressions sans cesse renouvelées au cours du 16e siècle. Si on pouvait faire un anachronisme, c'est un best-seller, je crois, voilà. Et qu'on retrouve dans tellement de bibliothèques ecclésiastiques et qu'on devait retrouver dans tellement de bibliothèques de personnel juridique.
C'est une donnée intéressante parce qu'il me semble que ça permet d'expliquer au moins en partie pourquoi c'est à l'âge moderne qu'on a cette éruption de chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'on a une technologie neuve, qui est l'imprimerie, qui va aider à la diffusion de clichés anciens hérités du Moyen-Âge et donc à la mise en place d'une série de ce qu'on appellerait aujourd'hui des fake news ou des théories du complot, mais qui trouve un imprimatur ecclésiastique à travers la diffusion de ces livres, et en particulier du Marteau des Sorcières. Donc, j'en parle parce qu'il y a une sorte de lien avec aujourd'hui, cette manière qu'ont les nouvelles technologies de diffuser pas nécessairement des discours éclairés, mais des clichés anciens et avec des résultats potentiellement catastrophiques. En l'occurrence, ça va amener une vague de paranoïa et de procès.
Si je puis me permettre de faire un trait d'esprit, le discours que l'imprimerie a permis de mieux diffuser, c'est la Bible.
Oui, bien sûr.
Mais oui, en effet,
ça a eu des conséquences considérables parce que les guerres de religion ça a entraîné
des diffusions des idées
et des clichés.
Oui, en tout cas de certains stéréotypes. Après, il ne faut pas non plus... en tout cas, il faut remettre encore une fois en contexte. Toutes les voix ne sont pas égales face à la répression de la sorcellerie et face, encore une fois, à ce phénomène. Toutes les voix ne considèrent pas l'avis des inquisiteurs dominicains comme étant unique et
oui.
Il y a toujours des partisans de la réalité ou de l'illusion de la sorcellerie, certains acteurs de la justice prenant en plein l'idée que la sorcellerie est quelque chose de réel, que l'on doit finalement combattre le diable dans le corps de des personnes qui l'adorent. Mmh. Et donc du coup c'est ainsi que qu'apparaît une recherche dans l'ordre judiciaire de la preuve matérielle de l'existence de cette secte, de ces sorciers, de cette sorcellerie. C'est la marque du diable, c'est la recherche dans certains procès du balai des sorciers, des sorcières, des onguents, des preuves matérielles finalement qui construiraient finalement le trait d'union entre un complot, une croyance et une réalité. Voilà. Mais d'autres voix s'élèvent vers une illusion.
Et qui que c'est une époque très confuse, où beaucoup de choses se passent, où les conséquences des grandes découvertes font qu'on se pose beaucoup de questions sur ce que c'est qu'être humain, où est la frontière entre l'humain et le non-humain, où est la frontière entre la rationalité et la folie. C'est dans tout ce contexte que les chasses aux sorcières naissent en quelque sorte. Et c'est là aussi que naissent, vous le rappelez, Céline Duchesne, un certain nombre de théories du complot. Il y a les sorcières, mais il y a aussi les juifs, il y a les lépreux, il y a les templiers. Enfin, tout ça se mêle et on retrouve les mêmes stéréotypes et la même dangerosité d'une certaine catégorie de la population, de certaines catégories de la population.
Oui, c'est Jacob Rogozinski qui est philosophe, qui a écrit un livre absolument passionnant sur le sujet, sur le principe finalement de la théorie du complot, du bouc émissaire, et les sorcières sont arrivées, mais avant les sorcières, bien d'autres sont passées par là, que ce soit en effet les lépreux, alors je ne les cite pas dans l'ordre parce que je ne suis pas historienne, mais les lépreux, les templiers, les juifs, bien évidemment, et il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui frapper. Et je crois que c'est ce qu'explique en tout cas Robert Muchamblé, qui est historien, c'est que l'Église, au bout d'un moment, après avoir éradiqué un certain nombre d'hérésie à taper sur les êtres qui étaient aussi considérés comme les êtres les plus vils et les plus faibles, à savoir les femmes.
Ah voilà, et vous rappelez évidemment les travaux essentiels de Ginsburg sur le sujet, le sabbat des sorcières, qui montrent que en fait les personnes visées, les personnes considérées comme des sorcières sont essentiellement pour une part des femmes qui des rebouteuses tout simplement, des femmes qui ou des hommes qui ont conserver des traditions locales de guérison et d'études, mais aussi des gens, c'est ce que Ginsburg commence à analyser avec les, ou dans le Frioul en particulier, des gens qui sont en proie à des transes, qui se voient littéralement voler dans les airs.
Ce qu'il appelle les benedanti.
Voilà.
Hein, c'est ceux qui vont pour le bien. Mais là aussi, les choses sont toujours très complexes dès qu'on parle des sorcières. Quand Ginsburg épluche ses archives du Frioul, il tombe sur autant d'hommes que de femmes. Là, je connais pas les chiffres, mais c'est pas spécifique aux sorcières. Et ce que j'ai trouvé absolument passionnant dans tous ces travaux, c'est le parallèle que lui peut faire entre le chamanisme, voilà, et la figure de la sorcière. Et il remonte. Alors, il a une approche qui lui est très particulière, hein, où il peut travailler sur des espaces-temps différents, sur des espaces géographiques différents. Et il montre que finalement, la sorcière telle qu'elle n'apparaît pas dans les procès. Enfin, il va chercher toutes les petites failles dans les procès, toutes ces petites phrases qui ne sont pas dites, pour en creux essayer de trouver un portrait de sorcière ou de sorcier, et ça l'amène jusqu'au chamanisme. Donc en effet, ce sont des rites qui étaient essentiellement liés à la fertilité, que l'Église a voulu combattre à un moment donné de façon un petit peu plus vive, et où il y avait des sorties de corps, et il y avait des gens qui se battaient pour que les récoltes soient bonnes. Donc il y avait ceux qui se battaient pour le bien et ceux qui se battaient pour le mal, et tout ça se faisait à travers des sorties de corps et dans des espaces, des cieux qui peuvent faire penser aussi à la Mesnil Henquin ou à tous ces grands voyages que l'on pouvait observer dans les cieux.
Voilà, ça y est, il remonte. À travers les travaux de Ginsburg, on voit apparaître les traces du paganisme, des anciennes religions païennes, et puis un schéma unificateur qui est celui de la chasse sauvage, le passage dans les cieux d'une troupe de revenants conduite par un chef mythique et qui fait remonter l'origine aux trans chamaniques, c'est-à-dire au voyage chez les morts qui considèrent
comme hypothèse, oui, son hypothèse. C'est son hypothèse.
Et ce schéma culturel-là serait la source de tout ce que l'on a fini par appeler la sorcellerie, relue à travers les traités de l'Église qui considèrent que les gens qu'ils appellent les sorciers et les sorcières se livrent à des pratiques qui sont finalement semblables aux sectes gnostiques de dévoration des enfants, offrande des enfants au diable, etc. C'est-à-dire un mélange de démonologie, d'hérésie, et tout ça va se mêler.
Je crois que c'est surtout un mélange. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué, oui. En effet, de parler des sorciers et des sorcières. C'est que les sources sont tellement vastes et elles se croisent à des moments donnés. Donc on a comme ça un fil d'une pelote qu'on trouve. Et puis ça veut pas dire après. Et puis en tout cas, moi je pense que quand même ce qui est important de retenir, c'est que l'Église a quand même profondément lutté contre cette magie qui a toujours été présente et qui l'est d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Mais je pense que il y a quand même un vrai combat de l'Église contre la magie des campagnes, parce que peut-être que les campagnes n'étaient pas assez christianisées aussi à leurs yeux. Enfin, ça, Maxime, je ne veux pas trop m'avancer non plus sur vos terres, mais le combat de l'Église contre la magie, la fascination que l'Église pouvait avoir pour la magie et en même temps la manière dont elle avait de la condamner et d'essayer de l'éradiquer était quand même assez frappante.
Oui, parce que la question de la sorcellerie pose aussi la question des superstitions et du traitement des superstitions jusque dans le traitement de la sorcellerie qui, en tant que concept, hein, en tant que crime, établi et élaboré à la fin du Moyen-Âge, se conçoit comme un creuset, un réceptacle où viennent se cumuler différents discours qui ont été constitués dans les siècles précédents et qui ont été également issus de l'attitude de l'Église face à certains comportements, certaines pratiques dans le christianisme. Et c'est vrai que lorsque Ginsburg évoque la relation entre sorcellerie et chamanisme, le comparatisme est fascinant parce qu'il nous interroge finalement nous oblige à réfléchir avec notre matériel et surtout à voir la relation qu'il existe entre les superstitions, ce noyau finalement de pratiques que pourraient être partagées dans par des communautés rurales et la question du vol magique, en tout cas du vol accompagné soit avec des démons, avec des diables ou avec des déesses, hein. On pense au correcteur Sive Medicus de Burchard de Worms qui évoque pour la première fois au XIe siècle l'idée d'un vol nocturne avec Hérodiade et qui
Diane chasseresse,
voilà, chasseresse
de grec de la de
exactement qui fait le pont entre une culture antique médiévale et qui nourrit ainsi l'idée d'une sortie nocturne soit réelle soit fictive, produit soit de l'illusion soit d'un déplacement du corps, motivé à partir du XIIIe siècle dans la théologie par l'intervention directe du démon et qui aboutit dans les années 20-40 par la constitution de croyances, de concepts tels que le sabbat où sorcier, sorcière, femme, homme accusé de sorcellerie se rendrait à distance aidé par le diable ou par un objet mu dans les airs par le diable dans un endroit secret pour adorer le diable.
Alors voilà, c'est cette constitution progressive d'une narration à partir d'éléments disparates, d'une narration paranoïaque et univoque qui est parallèle, va avec l'idée qu'il y a une monopolisation progressive du savoir médical, du savoir technique, c'est-à-dire d'abord par l'Église, et puis aussi d'une constitution progressive des États. C'est-à-dire une homogénéisation progressive des choses qui se fait à partir de l'époque moderne, qui a pour résultante le fait que les populations dites marginales doivent être, d'une manière ou d'une autre, exclues du jeu narratif en tout cas. Ariel Bond, vous n'avez encore rien dit jusqu'à présent. Est-ce que à partir du XVIIe siècle, à partir des grandes chasses aux sorcières, est-ce qu'il y a ou non la constitution progressive d'une homogénéisation de la science? On cherche il ne doit y avoir qu'un seul discours médical, un seul discours
discours
politique.
Médical, politique est récupéré effectivement par les hommes et aussi les femmes sont exclues de ces connaissance-là, etc. Donc c'est pour ça que les guérisseuses, les avorteuses sont éloignées de ce champ-là.
Parce que Céline Deschenet, vous dites dans votre livre que les sages-femmes sont particulièrement visées à un moment donné.
Ah mais il suffit de lire le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, pour s'en rendre compte. Elles sont quand même très stigmatisées. Il faudrait que je retrouve une citation, mais je pense que le principe de la fonction même de la sage-femme qui est d'être à l'origine de la vie fait que, surtout à une époque où vous aviez quand même une mortalité extrêmement importante, que vous êtes évidemment la cible après facile et attaquable des décès. Je crois qu'un enfant sur quatre qui mourait avant l'âge d'un an à l'époque moderne. Donc on comprend aussi que finalement les sages-femmes, et qui pouvaient être aussi des sages hommes à l'époque, même s'il y avait quand même, je crois, plus de femmes, sont devenues des cibles évidentes. Parce que comment expliquer, c'est toujours plus facile d'expliquer les décès quand on va invoquer une cause qui peut être liée à la sorcellerie ou à un mauvais sort. Voilà, en tout cas dans le marteau des sorcières, le Maleus Maleficarum, c'est vrai qu'elles sont extrêmement ciblées, Il y a quand même un certain nombre de chapitres qui leur sont consacrés avec des exemples. Enfin, c'est le principe de ce livre, hein, de fonctionner à travers des exemples.
Oui, oui.
Et de montrer que telle femme sortait de la ville et tout à coup, qu'est-ce qui est tombé de son tablier? Un bras de bébé qui n'avait pas été baptisé et tout. Pourquoi? Parce qu'elle allait au sabbat. Et qui était-elle? Elle était sage-femme. Alors, je ne sais pas si on les appelait spécifiquement sage-femme à l'époque. Elles avaient des rôles plus vastes que ça. Mais en tout cas, elles sont clairement ciblées dans le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières.
Oui, une concentration des regards sur la sage-femme, en tout cas pour l'époque moderne, parce que dans les sources que je fréquente au Moyen-Âge, on en trouve, évidemment, je ne dirais pas qu'on n'en trouve pas, non, mais on n'en trouve pas dans un si grand nombre que ça. Il y a des femmes, certes, mais elles ne sont pas toutes sages-femmes.
D'accord. Alors l'image culturelle de la sorcière va peu à peu changer, surtout au XIXe siècle, et c'est Michelet qui va être le grand agent du changement, enfin qui va donner de la sorcière une image qui est pratiquement positive.
Oui, enfin même très clairement positive, en tout cas l'image d'une femme romantique, révoltée, belle. Alors il y avait déjà de belles sorcières dans la littérature avant, parce qu'une belle sorcière est plus, elle est plus captivante qu'une vieille sorcière laide, et si elle est belle, c'est peut-être aussi par la faute du diable. Donc Michelet n'est pas à l'origine de tout, mais c'est vrai que son livre La sorcière, publié en 1862, a été vraiment une sorte de passage et a transformé cette figure qui pouvait être quand même plutôt négative, essentiellement négative, en une figure tout à coup intéressante et de révolte, et très liée à la nature.
Mais c'est très lié aussi au romantisme.
Oui, bah bien sûr. Oui, on est en plein 19e, donc il y a des sorcières, des fantômes, des vampires. Enfin, c'est la littérature fantastique qui arrive un peu plus tôt, à la fin du 18e, mais c'est une figure éminemment romantique.
Oui. Alors c'est ce romantisme qu'on va voir maintenant, comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, et on va voir comment ce romantisme se lie au militantisme aujourd'hui. Watch it slip away. Alors, à l'époque contemporaine, c'est dans les années 60 que le mouvement, que les sorcières renaissent en quelque sorte. C'est ce que vous avez particulièrement étudié, Ariel Bont, en particulier le mouvement Witch en 68.
Tout à fait, j'ai mes petites notes. Le Women's International Theorist Conspiracy from Hell, avec mon merveilleux accent, mais oui, c'est...
C'est la conspiration terroriste internationale des femmes venues de l'enfer.
Tout à fait, c'est un groupe de militantes féministes qui s'est organisé dans les années 1968 à New York au début, et qui était vraiment imbriquée dans le mouvement de libération des femmes, et qui ont repris effectivement les codes de la sorcière avec... les chapeaux pointus, les robes noires, et qui ont manifesté en jetant des sorts dans les rues, etc. C'est un mouvement qui a duré quand même 2 ans, après qui a un peu disparu et qui est revenu en 2016 à Portland au début, donc le Witch Portland, et puis après qui s'est diffusé dans le reste des États-Unis, même du monde, parce qu'il y a des groupes Witch à Londres, même à Tokyo, et donc en France,
avec
Paris, le Witch Block, Paname ou Paris, qui reprend aussi ces codes-là, et qui à la fois manifeste, donc la première fois qu'on les a vus en France, c'était en septembre 2017 pour la loi travail, et puis à la fois, donc ouais, elles manifestent dans les rues, et puis elles performent ce qu'on appelle des rituels, elles en ont fait un par exemple le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, où il y a vraiment une incantation avec un rituel très organisé pour lutter contre les oppressions systémiques que subissent les femmes et puis les personnes LGBTQ+, puisqu'elles se revendiquent aussi de ce mouvement-là.
Alors les chapeaux pointus et toutes ces choses-là, c'est une invention américaine, hein, c'est ce que vous dites, Céline de Chenet.
C'est ce que Maxime Préaume disait, qui lui est spécialiste des estampes. Il n'a jamais croisé dans les estampes du XVe siècle ou plus tard de chapeaux pointus noirs.
Voilà. Et alors, dans les années 60, le mouvement s'accompagne d'un intérêt pour la sorcellerie. En France, il y a Robert Mandrou qui publie Magistrats et sorciers en France au XVIIIe siècle. XVIIe siècle, qui est devenu un classique. Hein. Il y a Xavier Gautier, dont vous parlez, Céline Duchesnay, qui crée la revue Sorcière.
Oui, mais alors elle n'est pas du tout sur quelque chose de spirituel. Voilà. Elle est vraiment sur une revendication très politique.
Politique, ouais. Féministe, artistique. Voilà, c'est à peu près ça.
Voilà, c'est ça. Mais il y a une dimension humoristique au départ, enfin en tout cas satirique ou pas.
Je dirais pas humoristique. Après, je pense que c'est une réappropriation d'un terme qui était une insulte ou quelque chose, oui, qu'on lançait. Enfin, être accusé de sorcière, c'était vraiment quelque chose de très négatif. Donc, le fait de dire nous sommes les arrière-petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler, qui est un peu une phrase qu'on a vue partout dans les manifestations, etc. C'est une manière de dire nous revoilà, on est là pour. Contre le patriarcat, etc. Après, oui, le fait de se déguiser entre guillemets, c'est jouer avec les codes aussi, c'est pour se faire remarquer, se faire entendre. Enfin, on sait aujourd'hui que pour attirer le regard de la presse sur les réseaux sociaux, on peut faire des choses décalées comme ça. Après, voilà.
Parce que les réseaux sociaux sont très actifs dans cette renaissance de la sorcellerie. C'est très différent de ce qu'on avait au XVIe siècle, où on avait des femmes d'âge mûr au fin fond du bocage.
On n'avait pas Twitter à cette époque, c'est sûr. Bah, en plus, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment deux choses différentes. À la fois, effectivement, il y a les sorcières militantes, et puis il y a les sorcières tout court qui vont... pour le coup, on est vraiment dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, et qui vont partager leurs rituels. Dans le New Age aussi, le néo-païen, on appelle ça comme on veut.
Mais ça se mélange, parce que la sorcière américaine, dont j'ignorais tout jusqu'au moment où j'ai lu votre livre, Céline Duchesnay, Starhawk, qui s'est fait connaître, en tout cas en France, à ma connaissance, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, est une militante. Elle est venue militer à Notre-Dame-des-Landes. Elle est membre de la Wicca, qui est un mouvement spirituel néo-païen, c'est ça ?
C'est une religion même, on peut dire.
C'est même une religion qui est férue d'occultisme, quand même. Donc on entre quand même là dans un monde où la rationalité n'est pas nécessairement le bien le plus partagé, quand même. On peut dire ça ?
Non, mais après, Starhawk, je trouve, l'explique assez bien comment elle mêle justement son combat militant et puis aussi ses pratiques spirituelles. Elle dit, par exemple, dans une manifestation, c'est bien que, en tout cas, c'est ce qu'elle estime, hein, que tous les manifestants soient dans une même énergie et donc le fait de faire un rituel tous ensemble va permettre de créer une cohésion du groupe et puis d'influencer aussi le mental parce que être militant, c'est quelque chose aussi, il faut pouvoir le faire, tenir tête à des forces de l'ordre, tenir ses idées.
Vous pensez qu'en agiter comme ça cette mythologie de la sorcellerie, et en plus, dans certains cas, au moins dans le cas de Starhawk, ou dans le cas du... Qu'est-ce qu'on dit, ou le Wicca ou la Wicca?
La Wicca.
Vous pensez que c'est faire du... On est encore dans le militantisme, on n'est pas dans un phénomène de régression collective?
Régression collective, moi je ne crois pas. Alors c'est un jugement de valeur tout de même.
C'est une question.
Je dirais que c'est un regard qui est peut-être assez français, parce que finalement, quand on est aux États-Unis, de mêler à la fois l'action politique, une action spirituelle forte, ce sont pas des choses qui sont antinomiques. Tandis qu'en France, c'est vrai, et en tout cas une qui en parle très bien, c'est Camille Dusselier, qui connaît bien Starhawk, qui est aussi sorcière et qui fait partie à la fois de cette pensée queer, qui est féministe, militante, donc qui a une revendication politique assez forte, qui se dit donc sorcière, et à la fois qui a une pratique spirituelle forte. Elle explique très bien, donc, que ce soit dans ses documentaires ou dans son dernier livre qui a été republié là aux éditions Cambourakis il y a 6 mois à peu près, la sorcière lui permet de faire un pont entre deux mondes qui sont très éloignés, donc le côté spirituel et le côté politique. Et finalement, cette figure a l'avantage de, aujourd'hui, au XXIe siècle, parce que évidemment, les femmes ou les hommes qui étaient accusés de sorcellerie, que ce soit donc dans les temps modernes, sont extrêmement éloignés de tout ce qu'on vit aujourd'hui, donc on ne peut pas faire de parallèle. Mais cette figure permet de rassembler des mondes qui étaient assez opposés. Et aux États-Unis, c'est moins choquant. Je crois qu'il y a notre côté très rationnel.
Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que, pour reprendre la citation de Mona Chollet au début, quand elle dit que la sorcière est à la fois la victime absolue et la rebelle obstinée, est-ce que c'est pas choisir, comme image de révolte, une image de défaite? Parce que être dans la rébellion obstinée tout en étant la victime absolue, c'est pas vraiment la garantie de la victoire quand même.
Moi, j'analyserais ça plus avec le principe des mouvements LGBTQI+, qui est d'une insulte peut devenir une fierté. Finalement, quand on vous traitait de gay, c'était une insulte, ou de PD par exemple, insulte typique. Si vous vous réappropriez le mot, vous pouvez en faire après une sorte d'étendard et une forme de fierté. Même chose avec ce terme de queer qui...
On est dans l'affirmation identitaire. On n'est plus dans le rapport à l'histoire, pour le coup.
Mais je pense que le rapport à l'histoire est assez éloigné, et que de dire nous sommes les arrière-petites filles des sorcières, des bûchers, c'est plus une manière de se positionner, un discours qu'une réalité.
Donc, les sorcières aujourd'hui font partie de l'identitarisme, en fait, de la quête identitaire généralisée.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut aller aussi loin. Enfin, après, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, Ariel, mais moi, je dirais qu'elles permettent d'abord, je ne sais pas si elles permettent beaucoup de choses. Après, c'est un certain nombre de personnes qui ont envie de pratiquer une spiritualité différente. Et je pense qu'il faut aussi lier quand même ça au fait que aujourd'hui, on est dans des formes de spiritualité qui sont beaucoup plus à la carte, où on a envie de reconstituer une forme de vie spirituelle qui soit en dehors des monothéismes, qui en plus sont quand même particulièrement misogynes.
J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages, aux parfums d'ardoises et de rue, des villes avant l'orage, la rosée de leurs yeux trop mauves reflète une lumière qui conduit parfois les vieux fauves et les anges en enfer. J'aime rôder vers les fleurs perdues dans les jardins sauvages et m'égarer dans les ciguës et dans les saxifrages, sentir la chair d'une figue verte qui s'offre lentement sur le rose d'une corolle ouverte à mon souffle tremblant.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Betzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Alexandre Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
J'aime rôder vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, aux nuances des gris bleus des grues, des banlieues de passage, le velours de leurs lèvres humides, à l'ombre de leurs voiles, montrent les mains, tirent vers le vide, au murmure les
Mais c'est toi que j'aime rouler vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, aux parfums d'ardoise et de rue. Des villes avant l'orage, suivre le jeu d'une étamine, sur un œillet violet qui s'entr'ouvrait, qui s'illumine.